fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Die Revolution in Maghreb ist in aller Munde. Nicht nur in Libyen gibt es eine große Revolution, auch in Kamerun gab es diese Woche eine Revolution und in Togo demonstriert die Opposition seit einem Jahr jeden Samstag gegen die diktatorische Regierung. Wir werden in dieser Sendung zu diesem Thema berichten. Am Telefon werden wir dem kamerunischen Präsidentschaftswahlkandidaten Vincent Foudap haben. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Amis fidèles auditeurs de Fenêtres sur l'Afrique, bonsoir et bienvenue au programme de Radio Canal K en Suisse. Rendez vos armes immédiatement, sinon il y aura des boucheries. C'est sur ces propos scandaleux et criminels du guide libyen que nous démarrons tous ensemble avec vous votre émission. Très sincèrement, nous sommes de cœur et partageons les douleurs de nos frères libyens qui continuent la lutte pour une démocratie. Au programme ce soir dans Fenêtre sur l'Afrique, l'actualité sur la révolution maghrébine et notamment celle de la Libye. Parlant toujours de révolte en Afrique, le FRAC, Front Républicain pour la Tenance et le Changement, continue ses manifestations. Nous recevons à cet effet le secrétaire à la communication de l'Alliance Nouvelle pour le Changement au Togo. Nous ferons également un tour au Cameroun où il y avait eu une tentative de révolte qui a été sauvagement réprimée par les forces de l'ordre cette semaine. Monsieur Vincent Sosten-Fouda, candidat à l'élection présidentielle 2011 au Cameroun, sera l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. L'équipe de Fenêtre sur l'Afrique est toujours vaillante. Ainsi, Gisela Rosato est comme à l'accoutumée à la supervision générale. Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Parfaite collaboration de Romain Koudjodi depuis Bonn. Romain, bonsoir.
Bonsoir, camarade Amos.
Fabi Kouassi également nous prête son soutien permanent. Au micro, je m'appelle Sylvain Amos. Et sans plus tarder, je vous propose d'écouter l'éditorial de Romain sur les enjeux de la continuation de la lutte démocratique au Congo.
Quelle opposition pour l'Afrique qui bouge? Surtout, soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui ou que ce soit dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Ernesto Che Guevara. L'Afrique maghrébine est en train de bouger aux grandes dames de l'Afrique de l'Ouest qui refuse de s'ouvrir à la démocratie et au respect des droits de l'homme. S'il est de bon augure de dénoncer les autocrates, véritables dinosaures qui refusent d'ouvrir leur pays à la démocratie, il est également de bon ton d'ouvrir ensemble une fenêtre sur le Togo pour scruter cette opposition qui a toujours le mérite de rater le coche à chaque fois que le besoin se fait sentir. Les exemples en font légion. Certaines formations politiques ont en février 1994 rapporté des législatives organisé par le feu et Adema, pour ensuite la brader par un poste saugrenu de Premier ministre. Chemin faisant, ils ont aidé le monarque dans la foulée à modifier la constitution par le boycott de l'hémicycle. Loin s'en faut. Le peuple a toujours continué sa lutte contre vents et marées, mais à chaque fois qu'il s'agit de se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation, les voilà comme des concubins en train de se faire des crocs en jambes. Il suffisait seulement que le très contesté M. Faure Gnassingbé Essomzina avance dans son discours de début d'année le souhait d'ouvrir un dialogue avec la classe politique pour les voir se déchirer, se dévorer entre eux comme des charognards. Selon des informations concordantes, au moment où la majorité du peuple togolais soutient le FRAC en manifestant tous les samedis, et ce, depuis près d'un an, pour revendiquer la victoire de M. Jean-Pierre Fabre, ce front ne semble plus être actif pour s'inspirer de la révolution dans les pays du Maghreb. Simple calcul politique ou intoxication et désinformation. Tout est possible dans un monde noir. Chiche. Ce que nos opposants ignorent est que maintenant, c'est le peuple qui oriente les manifestations et qui décide la conduite à suivre. Cette population est encore prête à casser n'importe quel leader qui s'écarte de la conduite à suivre face à un régime oppressif comme celui du Togo. Le trait de Gilles-Christ Olympio, qui a été contre la vraie lutte entamée depuis le 5 octobre 1990 et qui est devenu l'ombre de lui-même, en sait quelque chose. Ces informations inadmissibles appellent de notre part des remarques suivantes. S'il est vrai que personne ne doit être inquiété de son opinion dans une république, en quoi un tract sur lequel est écrit « Fort Nyasingbe, fort démission » puisse aussi déranger? Ce tract ne serait-ce que, selon des allégations mensongères provenant de M. Agbeome Kodjo, personne ne soutient ou ne prend fait et cause pour ce dernier, qui d'ailleurs a beaucoup de choses à expliquer un jour devant le tribunal de l'histoire. Nous ne sommes pas tous obligés de le porter dans nos cœurs, mais la démocratie, c'est aussi la tolérance et le respect de l'opinion contraire de l'autre. Dans la République de demain que le FRAC doit s'efforcer de construire, il doit aussi comprendre que dans l'eau nauséabonde du marécage pousse aussi le lotus, la plus belle fleur aquatique. Une seule hirondelle ne chante pas le printemps. Une remobilisation s'impose. Le FRAC et en l'occurrence l'ANC ont le devoir de ne pas trahir le peuple et de démontrer que le chien aboie mais la caravane passe. Oui, la caravane de l'histoire du Togo est en train de s'écrire à travers eux. Ils ne doivent pas écrire une symphonie inachevée. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Que l'Éternel bénisse le Togo et notamment l'ANC.
Allez, les roses dans politique, ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux, dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau, vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent, et après, ils viennent jouer au bon débat.
On a tout compris.
on a tout compris de Tikenja Fakoli, l'Ivoirien. Nous sommes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous qui nous suivez sur le www.kanaka.ch, bonsoir à vous. Honorable Edan, directeur du journal panafricain Afrique et Compétences, vient de nous rejoindre dans cette émission depuis Abidjan. Nous allons le recevoir tout de suite pour le briefing de la situation et politique en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il est déjà en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Oui, je rappelle une fois que vous êtes directeur du journal panafricain Afrique Compétences. Cela fait environ 4 mois déjà que perdu la crise ivoirienne. Et maintenant, il y a des affrontements militaires entre les pro-Gbagbo et Ouattara. Honorable Dedan, pouvez-vous nous faire brièvement l'état de la situation actuelle en Côte d'Ivoire?
Alors, il y a la situation se présente de deux façons. Il y a des forces armées en présence qui s'affrontent. Par exemple, dans le cas d'Abobo, qui est le bastion du RDR, on se retrouve dans une situation qui est que les forces nouvelles ont pu s'installer dans ce quartier et s'opposent farouchement aux forces de défense nationale. L'autre cas, c'est qu'il y a des quartiers où des mouvements pro-Ouattara se manifestent par des barricades, par des actions violentes et qui sont contrecarrées par les forces de l'ordre. Et ces actions-là se multiplient pratiquement dans tous les quartiers aujourd'hui. Très peu de quartiers échappent à ces incidents violents et même quand ils échappent, on s'en rend compte ou on se sent concerné parce qu'il y a des mouvements de foule. Des gens qui ont des déplacements de personnes. Par exemple, beaucoup de gens ont quitté Abobo pour venir se faire héberger ou trouver des logements dans les quartiers comme Cocody, parce que il faut savoir, Cocody, partie de Cocody, dans la partie Angré, je crois que c'est dans la partie Est ou Ouest, a fait frontière avec Abobo. Donc, vous voyez bien le Cocody qui est un quartier VIP, subit les conséquences de ces tirs entre les deux groupes qui s'affrontent.
Monsieur Onera Deidan, merci. Je rappelle encore une fois que vous êtes directeur du journal panafricain Afrique Compétences.
Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Fabi Kouassi, notre correspondante permanente à Lomé, et nous a également rejoint depuis Lomé. Et nous allons la recevoir pour le briefing sur l'actualité politique au Togo. Fabi Kouassi, bonsoir.
Sylvain Boss, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs.
Merci de nous accompagner dans Fenêtre sur l'Afrique. Fabi, un article publié sur mo5togo.com faisant état d'une contre-révolution du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement au Togo, et en l'occurrence de l'Alliance Nouvelle pour le Changement, suscite de vives réactions dans la diaspora togolaise. Quelle a été donc l'influence de la manifestation de ce samedi à Lomé, Fabi?
Ouais, c'est une question à deux volets. D'abord, pour cet article paru sur MO5, les Togolais ont été étonnés de l'interprétation éditorialiste ou journalistique qui a été faite de cet article parce que ça n'a pas suscité autant de réactions au pays, hein, comme ça a été le cas dans la diaspora ici, que ce soit la NC, que ce soit la DI, que ce soit l'Alliance, le PSC ou encore le Parti des Travailleurs. L'ambiance est bon enfant au sein du FRAC et des alliés du FRAC. Donc cette histoire de tract, je pense que ça a été une fausse interprétation dans l'écriture de cet article. En tout cas, c'est le casier des soucis ici. L'ANC n'a aucun problème avec ses militants, encore moins avec le peuple togolais. Et c'est pour dire que c'est toujours l'ambiance bon enfant des samedis, l'ambiance PSC Alliance à 10 sursauts, le Parti des Travailleurs, le FRAC au grand complet, maintient toujours la pression main dans la main à travers les artères de la capitale. Point de chute, la plage de Lomé. La grande annonce, c'est que Forgnan Simbé veut dialoguer avec l'Alliance Nationale pour le Changement. Une correspondance adressée à ceux partis émanant du ministère de l'administration et précisant que le président de la République invite l'ANC à dialoguer, correspondant sa arrivée au siège du parti hier dans la soirée. La réponse du parti de Jean-Pierre Fabre est sans équivoque un chapelet de conditions que le pouvoir doit remplir au préalable. Selon l'ANC, avant toute discussion, il faut la libération des prisonniers politiques de 2003 de 2005, la libération de Kakanya Singé, du DG de Redémar, le retour des députés ANC au Parlement, la constitution du groupe parlementaire ANC, la réouverture des radios fermées illégalement, les motos saisies au cours des répressions post-électorales, la liste est bien longue. Et donc c'est après ce préalable que le FRAC pourrait éventuellement engager des discussions avec le parti au pouvoir. Et pour le FRAC, le point à l'ordre du jour, si éventuellement il devrait y avoir dialogue, c'est sans nul doute le contentieux électoral. En somme, c'est une proposition de Fognan Singé qui ne semble pas trouver preneur pour l'instant. Le FRAC soutient que le pouvoir n'est pas du tout sincère, car en même temps qu'il invite au dialogue, il interdit par exemple un meeting de l'ANC à Zanguera hier vendredi. Autrement dit, le RPT est toujours dans la violation constante de la Constitution et dans le dilatoire, puisqu'après l'annonce du dialogue inclusif le 31 décembre dernier, le secrétaire général du RPT, Sosolito, qui est revenu à la charge pour marteler que Fognan Singé n'a jamais parlé de dialogue inclusif, mais plutôt de débat inclusif. Dans ce courrier adressé donc à l'ANC pour le parti de Jean-Pierre Fabre, il est fait mention de dialogue et Jean-Pierre Fabre avoue ne rien comprendre dans cette rhétorique de langue fourchue. Et donc, en conclusion, Fognan Singé doit faire des efforts pour être sincère, ne serait-ce qu'une fois, selon le FRAC. Le FRAC, donc, reste dans une dynamique de révolution. Claude Amégan s'est rappelé des premiers martyrs de 2005 en ce 26 février. Le Parti des travailleurs appelle les Togolais à se tenir prêts, car pour lui, l'heure a sonné pour la révolution, pour la libération du peuple togolais, a dit du professeur Négogué par la voix de son secrétaire général Alphonse Kogo, appelle les inamovibles directeurs qui refusent de partir à la retraite d'aller voir Fognan Singé pour lui dire « Nous avons volé, nous avons mangé, mais il est temps de céder la place ». Donc c'est à peu près ce qu'on peut dire sur le FRAC. Le FRAC est toujours là, renserré pour le même message que vous savez, ce qui se passe par rapport à ce tract du MO5, ici ce n'est pas une information et ça ne concerne, en tout cas ça ne semble pas intéresser les Togolais.
Oui, Fabi Kouassi, quelle a été l'affluence de la manifestation de ce samedi à Lomé? À combien peut-on estimer le nombre des manifestants, Fabi?
Je pense que la constance est là, hein. On est toujours dans les 20 000 manifestants, mais ce qu'on a remarqué aujourd'hui au départ de la marche, il y avait beaucoup plus de monde qu'au point de chute, et au point de chute au niveau de la plage, il a fallu au moins 30 minutes d'intervention, d'animation, avant que le groupe ne s'agrandisse, mais la constance est là, c'est au moins 20 000 Togolais dans la rue, contrairement aux 2 000 ou aux 1 500 qu'on retrouve dans les rues algériennes, et qui semblent intéresser beaucoup plus les médias internationaux.
Fabi Kouassi, une dernière question. Un parlementaire suisse a été victime d'une cybercriminalité à Lomé. Et Fabi, et qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette affaire?
Toi, plus de peur que de mal pour penser Gabriel, qui a été enlevé samedi dernier, vous venez à l'instant de le dire. Il a été informé par mail que un pensé décédé qui serait son frère lui a laissé une importante somme d'argent. À son arrivée à l'aéroport de Lomé, il a été accueilli par le sieur à Carcosa, l'auteur du mail, et son futur bourreau. Arrivé dans une maison à Bekota, M. Poncé a été immédiatement séquestré par 4 personnes qui lui demandent 1 000 000 d'euros contre sa libération. Ce qu'il fit par l'intermédiaire de sa famille restée en Suisse, c'est grâce donc à ce contact que les services de recherche et d'investigation de la gendarmerie ont pu mettre la main sur l'auteur principal de la libération de M. Poncé Gabriel mardi dernier. D'autres co-auteurs de cette tentative d'escroquerie sont activement recherchés, notamment à Gaba et Okori, de nationalité nigériane et Dossé, de nationalité béninoise. Un kidnapping qui vient rappeler quand même le braquage de l'ambassadrice des États-Unis au Togo, Patricia Hawkins, il y a seulement quelques semaines. Et le kidnapping de la styliste sénégalaise Mam Faye, il y a environ un an. Des affaires de kidnapping, de prise d'otage, de braquage, de cybercriminalité qui reposent fondamentalement avec acuité le problème d'insécurité. Que font les autorités face à cette récurrente question? Quelle est l'efficacité de l'opération araignée lancée à forte publicité publicité média, surtout que dans cette affaire, Gabriel Poncet, c'est l'ambassade de France au Togo qui a saisi les autorités togolaises de l'enlèvement du député suisse. Les Togolais et tous ceux qui vivent sur le sol togolais ont quand même besoin d'être protégés par les services compétents, surtout que la police et la gendarmerie ne lésinent pas sur les moyens quand il s'agit de réprimer les paisibles citoyens à coups de grenades lacrymogènes. Et donc de la gestion efficiente et efficace des problèmes sécuritaires dépend le développement d'un pays, et les autorités togolaises ont du pain sur la planche.
Fabi Kwasi, merci. Le FRAC, Front Républicain pour la Tenance et le Changement, tient toujours bon dans sa stratégie de revendication de la victoire de Jean-Pierre Fabre. Notre invité, notre premier invité de Fenêtre sur l'Afrique ce soir est M. Éric Dupuis, secrétaire à la communication de l'ANC. J'espère qu'il est déjà en ligne. Nous allons le recevoir tout de suite depuis Lomé. Éric Dupuis, bonsoir.
Bonsoir.
Merci infiniment d'accepter encore une fois de nous accorder un entretien dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique et sur Radio Canal K en Suisse. Afin d'informer correctement la diaspora africaine et surtout togolaise sur l'actualité au Togo, nous voudrions tout d'abord discuter sans langue de bois avec vous. Il est à noter que vous êtes secrétaire à la communication de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Dans sa parution du mardi 22 février 2011 dernier, le journal Liberté Hebdo fait état d'un probable prochain retour des 9 députés de l'ANC à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous confirmez cela, M. Éric Dupuis ?
Non, je ne peux pas le confirmer parce que nous n'avons rien qui nous permette de le confirmer aujourd'hui. Mais cela fait partie de nos exigences. Rappelez-vous, nous avons saisi la cour de la CEDEAO, nous avons saisi également l'Union interparlementaire internationale, nous avons saisi plusieurs structures internationales, et c'est pour cette raison que le président national Jean-Pierre Fabre avait fait une tournée en Europe il n'y a pas longtemps. Donc peut-être qu'actuellement il y a des pressions sur le pouvoir, on ne peut que le souhaiter.
Oui, Monsieur Éric Dupuis reste toujours en ligne avec nous. Romain Koudodi depuis Beaune a également quelques questions à vous soumettre. Romain, rebonsoir.
Bonsoir, Monsieur Éric Dupuis.
Bonsoir, Romain.
Si cette information du retour probable des 9 députés de l'ANC venait à être confirmée, n'exceptionnerait-elle pas un échec pour Gilles-Christ Olympio? Et quelle analyse feriez-vous alors sur l'évolution actuelle de ces rapports avec le régime RPT?
Oh, une gifle pour Gilles-Christ Olympio ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que au moins l'opinion internationale aura fait entendre raison au pouvoir autiste qui gouverne ce pays depuis plus de 40 années. Et il faut savoir que l'exclusion des 9 députés de l'ANC du Parlement européen était suite à plusieurs violations de la Constitution et des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ainsi que celui de la Cour constitutionnelle par les premiers dirigeants de ces hautes institutions, ce qui est grave dans un pays normal. Il faut savoir que nous ne vivons pas dans un pays normal. Si pour une fois ces violations répétées sont contestées par l'opinion internationale et que le pouvoir RPT revienne à la région, je pense que ce serait une première victoire du peuple togolais.
Monsieur Éric Dupuis, est loin de s'arrêter, les soulèvements des peuples du Maghreb et du Moyen-Orient ne font que s'approfondir et ont commencé à avoir des répercussions en Afrique noire avec la manifestation populaire pour que le régime de Paul Biya Dia, par exemple, dégage au Cameroun malgré ses répressions. Mais de plus, nous avons appris qu'à la manifestation du FRAC du samedi 12 février dernier, et vous avez exigé que Faure Gnassingbé démissionne et dégage. C'était, je pense que c'était un message d'un tract qui était distribué lors de cette manifestation. Où en êtes-vous de cette campagne et quels sont son écho à l'intérieur du pays?
D'abord, je me dois de vous dire que les slogans pour demander à Faure de démissionner ou de dégager ne proviennent pas de tracts. Ça fait 3 semaines que nos populations, lors de nos marches le samedi, nos populations scandent ces slogans demandant la démission et le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Le problème de ces pseudo-tracts sont intervenus seulement samedi dernier. Je ne pense pas que cette réclamation provienne de ces tracts-là. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, l'ANC n'a pas attendu le vent qui souffle de l'Afrique du Nord pour demander le départ de Faure Gnassingbé. Rappelez-vous que ça fait bientôt 1 an que tous les samedis, malgré les pressions, malgré les coups de matraque, de gaz lacrymogène, des arrestations, malgré toutes les brimades jusqu'à l'exclusion du Parlement togolais de 9 députés de l'ANC, nous continuons à manifester tous les samedis. Donc nous restons fidèles à notre ligne, la ligne que nous avons mise en place depuis le début de notre contestation. Nous voulons que la vérité des unes soit reconnue pour une fois au Togo, c'est-à-dire que celui qui a effectivement gagné les élections de mars 2010 soit mis au pouvoir comme l'exige le peuple togolais.
Romain.
Évidemment, parlant de ces pseudo-tracts, des rumeurs font également état que ce tract intitulé « Faure dégage » aurait été mal compris par l'état-major de l'ANC parce que le tract ne provenant pas de ce parti-là. Quelle analyse en faites-vous? Quelle information avez-vous évidemment sur ce pseudo-tract?
Non, vous savez, moi je connais l'origine de ces tracts, je l'ai su après. Bon, ceux qui ont émis ces tracts auraient dû s'approcher du secrétariat national à la communication de l'ANC ou d'un parti composant le FRAC pour dire voilà, nous allons faire ceci.
Donc monsieur Éric Dupuy, vous voulez dire que c'est un malentendu et dans l'organisation de cette manifestation?
Je ne dirais pas ça, je dirais que la personne qui a apporté les tracts aurait dû nous en parler parce que nous sommes les organisateurs de cette marche-là et à ce que je sache aujourd'hui, celui qui a apporté ces tracts n'est pas membre.
Allô?
Allô, oui?
Oui, allez-y, oui.
Même si...
Allô?
Si même si cette personne qui a apporté les tracts est un ami du FRAC, cette personne n'est pas membre du FRAC. Quand on organise une marche et qu'on prend la responsabilité d'une telle manifestation, on les assume jusqu'au bout. Si cette personne nous avait demandé de distribuer ces tracts-là, peut-être qu'on lui aurait dit « nous sommes d'accord pour distribuer ces tracts, mais nous, à l'ANC, quand nous faisons des documents que nous distribuons, ces documents portent notre marque. On ne peut pas distribuer pendant une marche organisée des tracts non signés. »
Monsieur Éric Dupuy, et selon des informations, l'état-major de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, a eu une discussion la semaine dernière à Lomé avec une délégation représentant l'Union européenne, et bien sûr sur la préparation des prochaines élections locales et des prochaines élections législatives, et qui devraient avoir lieu en 2012. A-t-on sérieusement commencé à préparer ces élections et envisagez-vous d'y participer, Éric Dupuy?
Non, je crois que vous allez trop vite. Effectivement, comme à l'accoutumée, la communauté internationale, notamment les représentants de l'Union européenne au Togo, à savoir la délégation de l'UE, l'ambassadeur de France ainsi que celui de l'Allemagne, ont rencontré d'abord les pouvoirs publics pour faire le point sur la situation politique et sur le respect des droits humains au Togo. Et suite à cela, ils ont souhaité une rencontre avec le FRAC. Donc, ils ont reçu une délégation conduite par le leader du FRAC, à savoir le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Donc, nous avons discuté de l'actualité politique du Togo. Nous avons discuté également d'une éventuelle, d'un éventuel dialogue. À ceci, nous avons répondu que nous n'avons pas l'intention d'aller à un dialogue dans la mesure où les conditions requises pour avoir un dialogue franc et sérieux, aujourd'hui ces conditions ne sont pas réunies. Je saisis l'occasion pour vous dire que suite à cela, avant-hier jeudi, nous avons reçu une lettre du ministre de l'administration territoriale, Pascal Bodouna, nous invitant donc l'ANC à une réunion dans le cadre du dialogue inclusif, une réunion avec le chef de l'État, lundi matin à 9h. Dans cette lettre, M. Bodouna demandait au président national de l'ANC de venir avec une équipe de 5 personnes. Le président national a appelé les autres membres du FRAC pour savoir, les autres parties du FRAC pour savoir s'ils ont reçu une telle invitation, et ils nous ont dit qu'ils n'ont rien reçu. À cette lettre, nous avons répondu que nous ne sommes pas prêts à rencontrer le chef de l'État, parce que au même moment où le ministre de l'administration territoriale nous écrit pour nous inviter à une réunion avec le chef de l'État, en même temps, il nous interdit une manifestation, un meeting que nous avons prévu. C'était hier, nous devions faire un meeting hier à Zangera. Cela a été prévu, a été interdit. Et je dois noter que la lettre d'invitation porte le numéro 20. Et la lettre de l'interdiction porte le numéro 19. Là, je crois qu'il s'agit purement et simplement d'une insulte à notre intelligence. Nous avons répondu à M. Bodjona en relevant tout ceci, et nous avons dit que nous sommes prêts à rencontrer le chef de l'État, parce que dans un État normal, il est tout à fait sain et conseillé que l'opposition puisse discuter avec les pouvoirs en place. Mais compte tenu de ce qui se passe au Togo, nous avons les exigences. Ces exigences ne sont pas très nombreuses. Hein. Nous voulons que la mise en œuvre de l'APG recommandée par les missions d'observation électorale de l'Union européenne des législatives 2007 et de la présidentielle de mars 2010 soit respectée. Nous demandons également que le gouvernement et le pouvoir RPT apprennent à respecter la Constitution et les lois de la République par le retour à l'Assemblée des 9 députés de l'ANC arbitrairement exclus, la reconnaissance de l'existence du groupe parlementaire ANC, le respect des droits et libertés des citoyens par les cessations des entraves aux activités des partis politiques, le respect des droits et libertés de la presse par la levée des interdictions abusives et arbitraires qui frappent les médias privés, en l'occurrence les radios X-Solaire, Métropolis et Providence, ainsi que le journal Tribune d'Afrique, la libération sans condition des personnes arbitrairement détenues, la restitution et le remplacement de tout le matériel, documents et sommes, ainsi que des motos saisies, et le désarmement de la milice. Voilà, je pense que ça, ce sont des exigences qui sont parfaitement légitimes. Et tant que ces exigences ne seront pas respectées, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas décidés à rencontrer le pouvoir pour encore une discussion sans lendemain.
Romain, vous avez une dernière question?
Oui, Monsieur Éric Dupuis vient de parler de milice au Togo, mais il y a un temps, on a senti qu'il y a eu une accalmie. Est-ce que cet aspect milicien a encore rebondi Et est-ce que cela ne coïncide pas avec un quiproquo qui aurait lieu à Noukafou lors de la visite de votre président du parti?
Oh, il n'y a pas eu de quiproquo. Je suis moi-même président de la fédération du 2e arrondissement 1. Donc c'est dans mon quartier que cela s'est passé. Ce n'est pas un quiproquo. Nous visitions les marchés de Lomé et le jeudi, cette visite devait se terminer à Noukafou et nous avons constaté la présence. En réalité, il ne s'agit pas d'un quiproquo, puisque moi-même, je suis président de la fédération du 2e arrondissement, dont Noukafou. Quand on était arrivé à Noukafou, pendant que le président national Jean-Pierre Fabre saluait les dames, on a remarqué la présence d'un 4x4 noir avec des gens en armes, et il s'agit des gens que nous connaissions déjà. Puisque ce sont les gens qui interviennent dans nos manifestations pour molester les gens. Et ils sont généralement assez costauds et ils ont des cordelettes pour étrangler les gens. Donc il y a eu une protestation de la part de nos militants et à un moment donné, on a été obligé de, disons, pas de battre retraite, mais d'éviter la bagarre. Le surlendemain, à savoir le samedi, les mêmes personnes, cette fois-ci, avec des coupes-coupes, des gourdins, des flèches, ont envahi la plage très tôt le matin pour nous interdire de faire notre meeting là-bas. Et nous avons fait appel à la gendarmerie qui assurait la sécurité de la plage. Et cette gendarmerie est intervenue pour leur demander de partir. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des malentendus et ce ne sont pas des quiproquos. C'est bien effectivement la milice du pouvoir RPT qui est de nouveau en action.
Monsieur Eric Dupuis, et merci d'avoir été notre invité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canalca. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à la communication de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Merci encore une fois et bonsoir chez vous depuis Lomé.
Sur l'Afrique. Interview, débat, analyse sur l'actualité politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
La fin du monarque Kadhafi est proche. De la Tunisie en Égypte, passant par Bahreïn pour aboutir en Libye, en élargissant ses tentacules sur le Cameroun qui peine à prendre le train en marche, l'Afrique est en révolution permanente. Ouvrons tous ensemble une large fenêtre sur la Libye pour un éclairage simple et complexe. Malgré la menace de boucherie proférée mardi dernier par le guide libyen Muammar Kadhafi, arrivé au pouvoir à 27 ans, avec un règne implacable de 42 ans sur son pays, les opposants ont pris le contrôle de la côte orientale de la Libye. Des soldats ont également rejoint le soulèvement populaire contre ce régime. Selon un nouveau bilan, la répression aurait fait plus de 1000 morts. Comme il fallait s'y attendre, cette révolution libyenne a pris de court les États-Unis et l'Union européenne, qui sont très mitigés dans leurs déclarations. Au lieu d'accompagner le peuple frère libyen dans sa recherche de démocratie confisquée pendant plus de 40 ans pour cause de pétrole et des intérêts en Libye. Par ailleurs, au fur et à mesure que le royaume de Muammar Kadhafi se rétrécit, les défections se multiplient et les langues se délient. Il y a la preuve que Kadhafi a donné l'ordre pour l'attentat de Lockerbie en 1988, affirme désormais l'ex-ministre libyen de la Justice, Mustapha Abel Jalil, au journal Sudoua Express. Tout se passe comme si le guide n'en avait plus pas pour longtemps au pouvoir. Il semble en tout cas ne plus vraiment pouvoir compter que sur sa garde très rapprochée. Il a perdu presque complètement le contrôle de la province de l'Est et le Sud du pays. Partout sur les routes de la ville populaire, la joie de la libération s'exprimait sur les visages. les insoumis du régime agitaient fièrement le drapeau de l'indépendance de 1951. Avec une certitude bien ancrée au fond d'eux-mêmes, le dirigeant ONU, qui promet une boucherie à son propre peuple, ne se maintiendra pas encore longtemps au pouvoir. Maintenant, c'est le goût de la liberté, ce mot cher pour lequel les Tunisiens et les Égyptiens ont retrouvé leur autonomie. En attendant l'effet dominant sur l'Afrique subsaharienne, notons que le Grand Nigeria prépare son élection et que cette semaine, des gaz et grenades lacrymogènes ont jailli sur Cotonou, au Bénin, dont la population entend contester la liste électorale frauduleuse et que le Togo n'a pas fini avec les marches de protestation organisées tous les week-ends au centre-ville depuis plus d'un an. En Côte d'Ivoire, les artilleries aux armes lourdes crépitent à Yopougon, le fief de Gbagbo, toutes les nuits de cette semaine. Rappelons également que le Burkina Faso de Blaise Campore est aussi assis sur une poudrière qui peut s'embraser à tout moment. L'Afrique est en train d'accoucher dans la douleur sa démocratie. Une révolution intelligente et jeune, comme l'a chanté Tikenja Fakoli, s'impose. Peut-elle sauver l'Afrique ?
On ne cache jamais la lumière du soleil. Longue, longue, le libérateur le bébé. Avant de te moquer de moi, il faut te regarder.
Dans un miroir, oh, il faut te regarder.
Avant de juger les autres, faut te juger, yeah, yeah.
Dans un miroir, oh, oh, il faut te regarder.
Avant de critiquer les autres,
sur l'Afrique et sur Radio Canal K, examen de conscience chanté par Longelongelo camerounais. Cette semaine, une tentative de révolte au Cameroun a été sauvagement réprimée par la police. On note plusieurs arrestations dans les rangs des manifestants. Le vent de la révolution qui souffle dans les pays du Maghreb touche-t-il déjà le Cameroun? Nous allons nous entretenir dans un instant avec M. Vincent Fouda, qui est aussi l'invité de Fenêtre sur l'Afrique de ce soir. Et je pense qu'il est déjà en ligne depuis la France. Nous allons tenter de le recevoir tout de suite. Monsieur Vincent Sosten Fouda, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2011 au Cameroun. Vous êtes également sociopolitologue et chercheur à la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie à l'Université du Québec au Montréal. Et je rappelle également que vous êtes journaliste par vocation. Et est-ce que vous pouvez nous donner brièvement les raisons de votre engagement politique, Monsieur Vincent Fouda et Soustain?
C'est toujours difficile de donner les raisons d'un engagement. Disons que c'est un appel politique. Et cet appel, on l'entend très souvent parce que le peuple demande un renouveau des figures politiques aujourd'hui en Afrique. Quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que le président Barack Obama a entre 47 et 49 ans, donc à 46 ans, il est arrivé au pouvoir, que dans un pays comme la France, déjà il y a 4 ou 5 générations, Giscard d'Estaing arrivé au pouvoir à 47 ans. Non, ça montre que l'Afrique, celle qui a connu la décolonisation, est dépassée. Ce dont on a besoin le plus en Afrique aujourd'hui, c'est une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques capables de négocier d'égal à égal avec nos partenaires. J'ai donc essayé simplement de répondre à cet appel de renouvellement du monde politique, du paysage politique camerounais.
Oui, et Monsieur Vincent Soustain Fouda, l'appel lancé par 4 partis de l'opposition le mercredi 23 février dernier en vue d'un soulèvement populaire au Cameroun a été peu suivi. N'est-ce pas un échec pour l'opposition camerounaise qui peine à chasser le président Paul Biya au pouvoir depuis près de 30 ans?
Non, il faut interpréter les événements du 23 février dernier avec beaucoup de circonspection. Il ne s'agissait pas en réalité d'un appel à mettre hors du pouvoir le président Biya. Il s'agissait de commémorer en fait les événements, les émeutes de la faim qui avaient été matées en 2008 par le pouvoir. Donc certains partis politiques voulaient tout simplement organiser une marche pacifique afin que nul n'oublie. Vous savez que la mémoire est le guide suprême. La mémoire est ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Les générations futures ont besoin de savoir qu'en février 2008, des jeunes Camerounaises et Camerounais sont tombés sous le coup des balles d'une garde prétorienne, comme on l'avait déjà vu à Soweto. Donc, certains partis politiques ont donc appelé les populations à une marche silencieuse dans la ville. Il ne s'agissait pas d'un mouvement de révolte. Malheureusement, le pouvoir en place au Cameroun, et j'ai d'ailleurs moi-même adressé une correspondance au cabinet civil du président de la République pour appeler le président de la République et le parti au pouvoir à l'apaisement, à la retenue. Parce que le déploiement de la violence était disproportionné par rapport aux centaines de manifestants qui sont sortis. Donc ce n'est pas tout à fait un échec. Et vous savez que le président Biya est en place depuis 28 ans. Il est à sa 29e année. Et ce n'est pas par une marche que l'on met un président hors de course. C'est une lutte de longue haleine. Ça va prendre du temps. Toutes les révolutions, d'ailleurs, dans le monde entier, prennent du temps. Si vous regardez simplement ce qui s'est passé dans un pays comme la Lituanie sous occupation soviétique, ou quand vous regardez plus près de nous des mouvements de révolte dans des pays du Maghreb arabe, vous vous rendez compte que pour la moins longue, ça a quand même pris 3 semaines en Égypte.
Oui, et Monsieur Vincent Fouda, selon vous, quelles sont les raisons de cet échec de la marche de protestation au Cameroun cette semaine? Et le Cameroun est-il aussi divisé pour faire partie le président Paul Biya?
Non, s'il y a une unanimité au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il faut tourner la page du président Biya. Tous les Camerounais sont convaincus, sont unanimes. unanime que le président Biya devrait passer la main. Il devrait passer la main en premier pour lui-même, parce qu'il y a l'usure du pouvoir. Il devrait en second passer la main parce que toutes les théories qu'il a essayé de mettre en place n'ont pas fonctionné. Maintenant, est-ce que la grosse question, la grande question que se posent les Camerounais, c'est par qui, avec qui on va faire les 7 prochaines années? Et je pense que c'est là peut-être que l'opposition en place au Cameroun pêche, et moi avec. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller vers les Camerounais avec des propositions concrètes, avec des analyses complètes de la situation sociale, économique, politique et même financière du Cameroun pour rétablir une confiance entre les populations et les hommes politiques. Vous savez qu'après 29 ans de pouvoir, il y a l'usure et il y a un abandon, un manque d'intérêt de la part de la population. Donc aujourd'hui, il faut à nouveau intéresser la population à la chose politique. Parce que partout en Afrique, ce n'est pas seulement au Cameroun, même si on voit par exemple une mobilisation dans des pays comme le Gabon, pour parler d'un pays frère et ami juste à côté, on voit que la population peut encore se mobiliser. Mais il faut des événements déclencheurs qui peuvent amener les populations à se dire, de toute façon, l'espace public est à nous et il faudrait que nous puissions nous exprimer. Quand les politiques ne sont plus capables de donner des solutions aux problèmes qui se posent à la société, il revient aux populations, à la société civile, à toutes les associations de se mettre ensemble pour reprendre en main l'espace public. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui au sein de la classe politique camerounaise.
Vincent Fouda, et vous affirmez par ailleurs dans vos écrits, puisque vous-même vous êtes aussi journaliste par vocation, vous affirmez par ailleurs dans vos écrits que partout où l'homme souffre, c'est une partie de l'humanité qui se meurt. Alors, le Cameroun se meurt-il ?
Ben, vous savez, il n'y a pas que le Cameroun. Il y a une grande partie de l'Afrique qui se meurt parce que l'Afrique est repliée sur elle-même et le Cameroun avec. Et pour ne pas mourir, on a besoin d'ouvrir grandement les fenêtres pour que les jeunes, les femmes, les vieillards puissent voir ce qui se passe à l'extérieur. Effectivement, il y a aujourd'hui en Afrique et au Cameroun en particulier un déferlement de misère. C'est-à-dire que dans les années 80, l'Afrique était en train d'amorcer quelque chose. On parlait de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, ce n'est plus la pauvreté, c'est la grande misère dans laquelle vivent les gens. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, vous avez des quartiers où l'on passe une semaine sans avoir une goutte d'eau. On a confié la gestion, par exemple, de l'eau au Cameroun à une société marocaine. Vous qui êtes africain, vous savez par exemple que le Maroc est situé dans le Sahara. Donc il y a un manque criable d'eau là-bas, alors que le Cameroun est la deuxième réserve hydraulique mondiale. Comment on a pu confier à un pays désertique la gestion de l'eau dans un pays qui en a abondamment? Et donc, on a des situations comme celle-là où, effectivement, les populations restent une journée, deux journées, trois journées, voire une semaine, sans avoir de l'eau potable. Et ça, c'est inadmissible. Quand vous regardez, vous allez sur les marchés, vous découvrez que le Cameroun n'a plus seulement une autosuffisance alimentaire. Le Cameroun connaît aujourd'hui des crises de famine qui sont insurmontables parce que, en fait, l'offre ne correspond plus, ne répond plus à la demande. Il y a un problème au Cameroun aujourd'hui qui est par exemple celui de la distribution du sucre. Le Cameroun est un des grands producteurs de sucre. Malheureusement, le sucre qu'il produit n'est pas destiné au marché local. On préfère le vendre au marché de la CEMAC et pendant ce temps, on importe du sucre animal que l'on redistribue au Cameroun. Par conséquent, ce sucre est impropre à la consommation et deuxièmement, il coûte beaucoup plus cher. Le Cameroun est devenu aujourd'hui un pays importateur de riz alors que l'Indonésie est venue apprendre comment cultiver le riz au Cameroun, dont le Cameroun importe aujourd'hui 96% du riz qu'il consomme. Donc vous voyez qu'avec tout cela, il y a véritablement un problème. Ce n'est pas une marmite qui bout au Cameroun. En fait, la chape de plomb qui pèse sur le Cameroun aujourd'hui est à tous les niveaux, au niveau social, au niveau économique, au niveau institutionnel. Il y a trois constitutions qui se chevauchent au Cameroun aujourd'hui, de telle manière, par exemple, que si le président arrivait aujourd'hui à ne plus être là, on ne saurait pas comment organiser la transition au Cameroun.
Monsieur Vincent Fouda, le temps qui est contre nous, une dernière question. Revenons maintenant à vous-même et rappelons encore une fois que vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2011 au Cameroun. Mais Vincent Fouda, vous n'êtes pas souvent au Cameroun. Et si je ne me trompe pas, vous résidez au Canada et peut-être moins connu des Camerounais. Comment allez-vous mener votre lutte et pourquoi les Camerounais doivent-ils vous faire confiance pour cette élection de 2011 au Cameroun?
Parce que vous posez une double question. Je dirais que je réside effectivement au Cameroun depuis maintenant un an. C'est-à-dire que je paye les impôts dans ce pays-là, j'y suis assez régulièrement. Il n'y a pas au Cameroun un problème entre ceux qui vivent au Cameroun et ceux qui vivent à l'extérieur. Parce que au Cameroun, toutes les générations font partie de ce que j'appelle une génération villageoise, qui un jour a dû quitter le village pour s'installer d'abord en ville, et puis de la ville sont partis vivre dans d'autres pays pour de multiples raisons, donc qui sont notamment liées soit à la conjoncture économique, soit à la conjoncture institutionnelle, soit tout simplement pour l'éducation. Bon, maintenant, pourquoi et comment est-ce que les Camerounais devraient me faire confiance? Vous pouvez voir par exemple que l'offre politique qui est faite par le regroupement de partis politiques qui me soutiennent et qui sont regroupés au sein de ce que l'on appelle au Cameroun, la coalition Cameroun Génération 2011, propose un programme réaliste, réalisable, avec des hommes et des femmes capables de le mettre à exécution. Donc, en premier, il faut rétablir les institutions au Cameroun, parce que c'est ce qui manque le plus, rapprocher l'administration des administrés, c'est permettre à l'État d'aller dans les coins les plus reculés, par exemple, dans une région comme Bakassi, vous savez qu'il y a des enfants qui naissent, grandissent, vivent et meurent au Cameroun sans jamais avoir vu le drapeau camerounais. Donc nous allons remettre l'État au cœur de la vie des Camerounais, nous allons, en apportant cet État dans le cœur de la vie des Camerounais, apporter tout ce qu'il faut, les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, les centres aérés de jeunes, les maisons pour les vieillards, afin justement que les Camerounais puissent vivre du fruit même de leur travail. C'est ce que nous proposons.
Monsieur Vincent Fouda et Monsieur Vincent Sosten Fouda, ça c'est votre nom complet. Je vous remercie encore une fois d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle à nos fidèles auditeurs du Trice de Radio Canal K que vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2011 au Cameroun. Vous êtes également sociopolitologue et chercheur à la chaire de recherche au Canada, en mondialisation, citoyenneté et démocratie à l'Université du Québec. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous.
On ne cache jamais la lumière du soleil. Longue, longue, le libérateur, le bébé. Avant de te montrer de moi, il faut te regarder.
Eh bien, fenêtre sur l'Afrique, stop FM. Mais avant de prendre congé de vous, je vous rappelle que le site, l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement au Togo, vient de lancer officiellement son site internet. C'est le www.anctogo.com. Vous pouvez dès à présent visiter ce site www.anctogo.com. Et là, vous aurez toutes les informations sur les activités politiques et de ce parti politique. Sylvain Amos, Romain Koudodi, Josué Maoli, et Esteban Gagnon et Gisela Rosato constituent l'équipe de ce soir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne continuation de programme sur Radio Canal K.